L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui fouille les recoins du Finistère et qui essaie de ne pas oublier celles et ceux qu'on oublie parfois. Quand les gazettes pointent du doigt les assistés ou la fraude sociale, eh bien voici d'autres chiffres. Il y a des personnes qui ne réclament pas les droits auxquels elles pourraient prétendre. C'est un constat déjà ancien, mais cette fois le sujet ressurgit et des solutions apparaissent, comme celles que nos invités ont lancées, une coopérative d'accès aux droits. En plus, cette coopérative est née à Douarnenez, près de chez nous, au centre social et dans le quartier de Kermaron. Et en plus, les coopératrices ont eu l'idée de raconter leur aventure en podcast, que nous diffuserons. La coopérative de l'accès aux droits est représentée aujourd'hui par Josique Pouessel, Bruno Perron et Jessie Vacher. Et il y a aussi le documentariste qui a aidé la coopérative à réaliser un podcast pour raconter le vécu de l'accès aux droits à Kermaron. Déjà bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
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 Et on va écouter un petit extrait de ce fameux podcast.
Autonomie. Alors, on va mettre. Voilà. Niveau, ben on met avancé, confirmé.
Ouais, confirmé.
Allez, hop.
Ouais.
Voilà. Capacité d'adaptation. Ça vous va de mettre ça ?
Oui, oui. Ça a bien changé. Tout ça, c'est...
Et travailler en équipe ?
Oui.
Pareil, confirmé. Ok. Est-ce que vous voulez mettre autre chose ou est-ce que...
Non, hein, ça va bien.
Ok.
La Maison Solidaire de Kermaron fonctionne avec une assemblée communautaire et une équipe de 5 salariés. Il y a une grande cuisine collective, deux grandes salles, du thé, du café, beaucoup de passages. C'est ouvert. Le seul bureau qu'on trouve parfois fermé, c'est celui de l'espace France Service. Ce dispositif est d'ordinaire une fonctionnalité des mairies ou des maisons des services publics. Mais à Douarnenez, il se trouve à Kermaron, et c'est original.
Un extrait de Vers l'accès aux droits, donc une série de podcasts à découvrir sur Arte Radio que nous diffuserons aussi sur Transistor cet été. Et avec nous, donc, pour en parler, il y a Josique Pouessel de la coopérative d'accès aux droits de Kermaron, accompagnée de Bruno Perron, Jessie Vacher et le documentariste Guillaume Mézières. Est-ce que vous pouvez déjà me dessiner un petit portrait de ce quartier Kermaron à Douarnenez, Jessie?
C'est un quartier qui est très chaleureux. On est accueilli par la Maison Solidaire, où petits et grands peuvent venir discuter, boire un café, à travers des jeux, ou bien s'il y a un souci, pour des dossiers, enfin, pour faire des démarches administratives ou quoi que ce soit, ou même informatique. Donc, voilà.
Et il est de quel côté de Douarnenez, ce quartier de Kermaron, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop Douarnenez?
Et du côté où on ne va pas forcément dans Ploiré. Et c'est un quartier qui a été relégué historiquement.
C'est Ploiré.
Oui,
d'accord.
C'est ça.
Ouais. Oui.
Et voilà, il y avait un centre d'animation, enfin un centre, une maison solidaire qui accueillait les habitants et proposait des activités imaginées par elle. Donc on ne faisait pas des activités pour les habitants, mais c'est plutôt les habitants qui faisaient part de leurs envies et de leurs besoins. Et après, on mettait en place des choses pour répondre à ces besoins-là.
Mmh. Et ça date de quand ce centre social, le Kermaron? C'est vieux,
enfin, 40 ans.
40 ans, ah oui, en effet. Et sinon, le quartier, Bruno, qu'est-ce que vous en diriez, vous?
C'est bon, un quartier dont je suis le voisin. J'avoue que je n'y allais pas beaucoup. J'habitais une maison à côté qui a été construite dans le marché noir de l'après-guerre des maisons. Et c'était tout derrière l'autre côté de l'église, un quartier que j'ignorais complètement. Et un jour, j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'administration. Je n'arrivais pas à... Je n'ai pas vraiment connu dans l'informatisation, dans des professions, parce que j'étais, je veux dire, un petit mot un peu spécialiste en boulot merdique, où on n'a pas d'ordinateur, tout ça. Et puis un jour, je me suis trouvé coincé, incapable de remplir la moindre demande. Ça me prenait un temps fou, ça m'énervait. Puis des fois, je renonçais. J'avoue que j'ai renoncé. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a un tas de prestations auxquelles je pouvais prétendre et que je n'avais pas. Par exemple, je vous donne l'exemple. J'arrivais après une vie de précaire et de profession de CDD, de période de chômage. Je me suis retrouvé à 62 ans avec un salaire de... une retraite de misère, même pas le RSA. Et je me suis rendu compte qu'il existait des prestations pour les personnes de 65 ans, dans mon cas, et que nous avions droit à ce qu'on appelle un complément de solidarité pour arriver à une retraite, je veux dire, pas bah, une merveille, mais avoir de quoi manger, quoi. Mmh. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé qu'ils avaient été très sympas avec moi, et puis je me suis dit, Bruno, tu te dois de t'engager pour apporter à la population et à tout le monde, voilà, aussi bien à faire de la cantine solidaire dans les quartiers, on appelle ça du marché à l'assiette, où les gens donnent en fonction de leurs moyens, etc. Mmh. Et puis je me suis trouvé bien là-dedans.
Pour moi, c'est vous avez déménagé à Carmaron, du coup?
Non, je suis resté parce que j'ai hypothéqué. Justement, je ne peux pas. J'ai hypothéqué le truc où je suis actuellement.
Bah, vous n'êtes pas loin, de toute façon.
Mais je ne suis pas loin, ouais, c'est ça.
Et je sais que vous travaillez à Carmaron, enfin, vous êtes salarié du centre social,
alors,
c'est ça?
Depuis peu, j'y suis plus, mais je traîne encore dans les bureaux et je suis toujours très proche sentimentalement de la Maison Solidaire.
Et c'est un quartier sinon qui est plutôt vieillissant ou qui est plutôt mélangé en termes d'âge ou
C'était pas mal des familles avant et oui, c'est un quartier qui vieillit un petit peu.
Ouais, bon, comme beaucoup d'autres en France, hein, bien sûr. Mais, ouais.
Et là, il y a des activités avec des gens qui viennent d'autres parts que du quartier. Ça s'est un peu diversifié. Et justement, Bruno était venu aussi pour le four à pain de la Maison Solidaire. Il y a des jardins, il y a beaucoup de cantines, effectivement. Il y a des activités pour les enfants, des activités yoga sur chaise aussi pour les personnes âgées. Il y a plein de choses et c'est vraiment un endroit super... que je vous invite à venir voir.
Et puis, il n'y en a peut-être pas tant que ça, des centres sociaux à Dornenay. Enfin, il y en a combien?
On est quand même pas mal. Il y en a trois. Il y a la MJC Centre Social, qui est plutôt dans le centre, et quelques quartiers périphériques de Dornenay. Et il y a l'Ulamir de Poulan, basé à Poulan, mais qui est sur beaucoup des communes rurales aussi.
Ah oui, 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 c'est ça. Et oui, parce qu'il y a un côté rural à Dornenay, il ne faut pas croire. Et donc, vous êtes intéressé à l'accès au droit. Alors, grâce à Bruno, on a compris un peu ce que c'était déjà, mais qu'est-ce qu'on appelle l'accès au droit? Enfin, c'est un mot, plutôt une expression qui revient assez souvent, finalement. Qui va nous le définir?
Ouais, je reprends la parole.
Allez-y.
Pour moi, c'est un droit. C'est un droit qui devrait être automatique. Il n'est pas normal que les gens restent dans des situations, des imbroglios, où ils n'ont pas suffisamment à manger, etc. C'est inadmissible. Je pense qu'il y a quasiment, je dirais le mot, une mauvaise éducation de la population par rapport à tout ce qui est possible. Vous avez une administration d'une extrême complexité, qui vous enfume, qui vous enroule et qui vous passe d'un interlocuteur à un autre. Et puis, ils attendent que j'y lâchiez le morceau, quoi. Alors que c'est un droit. Et pour moi, une coopérative d'accès au droit, c'est cela.
L'accès au droit, Jessie, c'est quoi pour vous, l'accès au droit?
Justement, c'est tout ce que raconte Bruno, c'est tout à fait ça, vrai. Et puis, nous, ça nous a permis de faire la passerelle avec le public et les pros, l'administration et tout, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup avaient des problèmes pour, quand ils appelaient, pour avoir quelqu'un au bout du fil, ou bien pour débloquer des dossiers, ou bien ne serait-ce que d'avoir un contact déjà humain, même au téléphone. Ou
ne
même,
pas avoir un robot, quoi.
Voilà. Mmh. Et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dossiers qui étaient bloqués pour pas grand-chose, ce qui a permis de faire cette activité, la campagne, de débloquer tout ça, de faire la passerelle publique et donc les administrations. Et sachant que les administrations, ça a permis aussi de les faire rencontrer entre elles, et ça a permis aussi de débloquer certains dossiers qui étaient bloqués depuis longtemps, longtemps. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore.
Vous, vous êtes bénévole plutôt pour aider, mais est-ce que vous-même, vous aviez accédé à tous vos droits?
Moi, je les ai un peu secoués.
C'est bon, vous aviez accédé.
Bah, oui, parce que le problème, c'est quand on vient du Limousin et qu'on arrive, et puis qu'il y a un document qui se balade de Limoges à Brest pour vous débloquer les APL ou quoi que ce soit, bah, il faut pas lâcher prise, quoi. C'est comme un pic-boule, quoi. Il faut s'accrocher et puis ne pas les lâcher, puis revenir toutes les semaines jusqu'à qu'on obtienne ce qu'on veut, quoi.
Je dis que vous constatiez que l'accès au droit n'était pas une évidence, à Carmaron ou ailleurs d'ailleurs.
En fait, la maison solidaire a été sollicitée par pas mal d'habitants du coin pour des questions. Enfin, quand il y a eu la dématérialisation, donc le fait que tout passe désormais par Internet, il y a eu beaucoup de demandes qui ont été faites au centre social.
Ah oui, il y a eu un avant, un après, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, le centre social était déjà centré pour plein de gens, pour plein de demandes. Mais en fait, avec la dématérialisation, et ça s'est vu pendant le confinement, il y a eu beaucoup de personnes qui ne savaient pas vers qui se tourner. Il y a aussi des institutions qui sont fermées pendant ce moment-là. Et donc, en fait, le centre social et des acteurs qui ne sont pas des acteurs habituels de l'accès au droit se sont retrouvés à s'emparer de questions qui sont entre le numérique et l'administratif. C'est de l'aide e-administrative, on appelle ça. Et en fait, il y a eu tout ce truc-là de qu'est-ce qu'on fait pour pas seulement répondre un par un à des demandes individuelles et tout ça, mais un peu s'emparer de ces questions au niveau collectif, politique, pour qu'il y ait véritablement des changements et que ça impacte, que ça améliore la vie des gens.
Mmh. Et c'était quoi les droits qui étaient les plus difficiles à combler, apparemment, de ce que vous en savez?
En fait, on a une définition assez, enfin très très large des droits, et on n'est pas allé vraiment sur une définition individuel de chaque droit, mais plutôt c'est ce que Jesse disait, c'était en fait être accompagné sur des démarches administratives. Ça a beaucoup tourné autour de la CAF, des APL, du logement, du RSA et tout ça. Et après, on a travaillé aussi avec France Travail, avec je sais plus, Bruno, tu saurais me dire.
France Service.
T'as dit à peu près tout ce qu'il en était. Hein,
la retraite, des aides.
CARSAT.
CARSAT, c'est pour la retraite, ça.
Conseil. La CAF, salaire. La CAF, elle applique. On a d'ailleurs un laboratoire en collaboration avec la CAF, parce que la CAF s'est retirée des représentations et des bureaux dans les petites villes.
Ah oui.
Donc, à la limite, il faut passer par Quimper. Dordogne, de toute façon, il existe parfois quelques permanences, mais c'est de plus en plus automatisé. Et d'ailleurs, ils ont créé un laboratoire pour venir recueillir dans la population, et ils appellent ça CAFLab. Au début, moi, je ne savais pas si je voulais participer à ce genre de choses, si j'étais devant leur disparition, est-ce que je n'étais pas un peu complice de leur mauvaise foi. Hein, ça m'a un peu interrogé.
Bonne question.
Mais je me suis rendu compte que ce serait mieux que rien. Et là, ils sont en train de nous expliquer, en gros, puis on se rend compte qu'ils ont des logiciels, que vous, par exemple les prestations pour les primes d'activité. C'est une usine à gaz de calcul que j'ai aperçu, que je n'ai pas voulu...
On n'y comprend jamais rien.
Smartphone, j'ai pas voulu prendre leur truc. Hein. Je pense qu'ils ne m'ont pas laissé faire. Mais on voyait bien que c'était une usine à gaz.
Pour les gens qui travaillent à la CAF, alors, vous voulez dire.
Oui, c'est-à-dire que les gens, les prestataires, ils reçoivent une somme.
Oui, mais ils ne savent pas quoi.
Mais ils ne savent pas quoi. Pourquoi comment on aboutit à ce calcul-là, c'est le mystère absolu.
Oui, c'est ça. Et donc, la coopérative,
Les droits sociaux en général.
Oui,
et
d'accord.
En fait, il y a eu ce projet de coopérative qui était de mettre en lien les différentes administrations du territoire, enfin différentes institutions, mais en mettant en valeur la voix aussi des personnes concernées par ces démarches-là. Que d'accord. Ce ne soit pas que des professionnels ou des directions qui réfléchissent à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça profite mieux aux personnes, mais que ce soit les personnes concernées elles-mêmes qui s'expriment sur ça. Oui. Et qui se réunissent en groupe, pour, en incluant des professionnels aussi, pour réfléchir à des changements au niveau local.
Et ça, c'est le centre social, la maison de Carmaron, qui a eu l'idée de lancer cette coopérative d'accès aux droits.
Exactement. Mais en n'y allant pas tout seul, en disant, c'est un sujet politique, c'est un sujet public, et on veut que ce soit pensé par tout le monde. Et avec ce truc-là de qu'est-ce qu'on veut faire globalement sur les questions d'accès aux droits et de non-recours à l'échelle du territoire de Dordogne.
Et les réponses des institutions, justement, ont été favorables? Comment est-ce qu'ils ont répondu, en général?
Eh bien, j'ai l'impression que, en fait, ça se fait assez peu que des personnes concernées s'expriment d'elles-mêmes sur ces questions de droits sociaux, et qu'elles soient surtout dans un espace d'interface et qu'elles soient écoutées par les administrations. Et donc, en fait, on l'a fait, on a testé quelque chose avec un peu sans aucune garantie de succès. Et en fait, le groupe de bénévoles est super, super investi et fait des trucs bien. Et les partenaires n'avaient rien à perdre à venir. Et donc, ils sont venus, ils ont... Je pense que ça questionne aussi leur métier, leur professionnalité, la façon dont ils travaillent et tout ça. Et qu'en fait, beaucoup... Enfin, ces questionnements-là sont partagés. Ces questions de qui sont les invisibles, pourquoi les gens ne recourent pas à leurs droits, pourquoi certaines aides sociales sont très peu demandées, et tout ça. Et donc, en fait, par la présence des habitants, par aussi des entretiens qu'on a faits, par la présence des pros aussi qui connaissent bien leur métier et leur territoire, on a quelques réponses aussi.
Donc l'idée, c'était de faire un dialogue entre les assurés sociaux et les organismes, c'est ça ? Et puis d'améliorer aussi entre vous une solidarité, c'est ça ? Entre assurés, GSI, c'est ça ? Vous aidez aussi les autres à accéder aux droits, c'est...
Exactement, oui. On les aide au niveau des démarches et tout.
Ouais.
Éventuellement, on peut même prendre des contacts. Avec, pendant la campagne, on a eu des contacts avec des pros, quoi, comme la CAF ou Caisse Primaire. Et ça nous permet, ça nous a fait comme un lien. C'est vraiment le terme de passerelle, en fin de compte. J'aime bien ce terme-là, parce que c'est tout à fait ça. Et donc, ça permet de débloquer plein de situations et puis de mettre en confiance. C'est le fait d'avoir mis une confiance qui s'est intégrée de petit à petit entre public et administrations, et entre les administrations entre elles et tout.
Oui, bah c'est plus sympa que d'être seul devant son ordinateur.
Exactement.
Qui ne marche pas.
et en fait, oui, ça s'est beaucoup vu dans ce dont Jesse parle, c'est une campagne d'accès aux droits. En fait, en octobre 2024, pendant un mois, donc nous, là, les habitants et des professionnels de Douarnenez, on était tous les jours, deux fois par jour, dans des quartiers différents de Douarnenez, avec un camion, des crêpes, du café, pour aller vers les habitants, à leur rencontre, discuter un peu, il y avait quelques moyens d'expression et tout ça, et aussi des pros de la CAF et de la CEPAM qui venaient avec leur ordi pour débloquer des situations sur place.
D'accord.
Et donc un peu...
Du concret, quoi.
Très concret. Et en accent sur la convivialité, et voilà.
Ouais, donc CAF, CPAM, France Travail, qui d'autre encore ? On a fait le tour, en gros.
France Service aussi.
France Service. Et combien de personnes dans la coopérative, en gros ? Des bénévoles et tout ça, enfin,
c'est fluctuant. En fait, le groupe allait de 6 à 15 personnes, mais on était souvent 8-10.
D'accord. Donc, vous avez fait une campagne de terrain, donc d'information. Guillaume Mézières, à quel moment est-ce que l'idée du podcast est apparue ? Enfin, vous êtes intervenu dans le projet ?
Eh bien, dès le début, je pense que le premier épisode donne des enregistrements du lancement de la coopérative. Donc, il y a eu des premières réunions avant un lancement officiel. C'était à l'automne 2020. 3, c'est ça. Et le dernier épisode, le 9e, est enregistré pendant la campagne d'accès aux droits, donc la campagne d'aller vers, là, dont Josic et Jesse parlaient, donc avec ce camion, le camion de l'accès aux droits qui se déplaçait dans les différents quartiers de la ville. Donc y a une sorte de chronologie qui est retracée dans cette série, quoi, donc de vraiment la construction de cette coopérative, et puis petit à petit... sans que ce soit planifié. Enfin, il y a quelque chose qui était aussi organique, qui venait au fur et à mesure et qui a débouché sur cette campagne. Puis en tout cas, c'est pas fini. La coopérative, elle continue de se réunir et qui passe sur de nouveaux projets. Et c'est assez impressionnant et émouvant aussi de se retrouver là aujourd'hui dans ce studio avec Jesse et Bruno, que j'ai rencontrés dans le premier épisode au moment où la coopérative se formait, qui sont devenus... qui ont une expertise aujourd'hui de ces questions d'accès aux droits et de la radio aussi, puisqu'il y a eu aussi des ateliers radio. Donc, donc il y a aussi cette histoire-là à travers la formation de la coopérative, c'est aussi là, comment dans ce groupe-là, on s'est enrichi et on a acquis une sorte d'expertise technique sur ces questions. Donc, c'est assez émouvant de le voir aussi, ça.
Parce que vous, au départ, Guillaume, vous étiez avec votre magnéto, puis vous enregistriez les gens et tout ça, puis après, c'est les gens qui se sont enregistrés eux-mêmes, non ? C'est ça ? Comment ça s'est passé ?
Bon, c'était plutôt sous forme d'entretien, mais il y a eu pas mal d'épisodes qui ont été faits dans les réunions de la coopérative, mais d'autres qui étaient... Celui qu'on a entendu tout à l'heure, c'était vraiment dans le bureau de la permanence France Service, donc avec la personne salariée qui s'occupe de l'espace France Service à Kermaron, donc c'est pas tout à fait la coopérative. Il y a un épisode qui se passe à la CAF aussi, donc il y avait dans cette série l'idée de faire un paysage de ces et de problématiser cette question de l'accès aux droits. Donc le point de vue de la CAF, qu'est-ce que c'est que France Service, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ce rapport au numérique, cet agacement, ce sentiment d'être excédé avec le numérique, comment aussi se décaler simplement de cette question, cette seule question du numérique, et de différencier ce qu'est la dématérialisation de ce mot magique numérique qu'on charge de beaucoup de choses. Aussi un épisode qui parle des aidants, donc comment en fait face à l'administration on est aussi avec des aidants, des aidants ça peut être des structures comme la coopérative Kermaron, mais aussi les proches. Et puis, voir le point de vue des personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui cherchent à l'obtenir et qui passent par des circuits d'accès aux droits qui sont ceux de la préfecture. Et alors là, c'est carrément une autre histoire. Oui. À la fois, c'est la même histoire, mais c'est une histoire d'une brutalité extrêmement, extrêmement forte. Donc, il y avait aussi montré ça dans l'accès aux droits. Aller voir ceux qui en sont exclus et des personnes à qui vraiment on met des bâtons dans les roues, en tout cas pour qui il y a des obstacles qui sont difficilement surmontables des fois.
Et le fait qu'il y ait un enregistrement audio, c'était plutôt stimulant pour les gens concernés ou plutôt bloquant ou pas, ou neutre?
Ouais, ça c'est à Jessie et Bruno de...
Ouais. Ça c'est super ça.
Ah ouais.
Comment vous... Moi je me suis étonné quoi. Parce que j'avais une mauvaise expérience il y a très longtemps de micro, j'étais resté bloqué. Donc j'ai pas pu faire d'interview, rien, c'était, mais j'avais 15 ans à l'époque.
Ah bah oui, mais c'est normal.
En fin de compte, ils m'ont débloqué, et puis quand il m'a interrogé, il m'a posé une question, et à la fin il me fait « bon, ben finalement, toutes les questions que je voulais te poser, tu les as déjà répondu ». Parce qu'il nous a mis tellement bien à l'aise et tout, ouais, qu'en fin de compte, ben, on déverse tout ce qu'on a à dire. Quoi.
Oui, et vous avez des choses à dire.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Ouais. Mais moi, je pense que c'est une habitude. Au départ, vous êtes timide comme ça, puis il faut se raisonner. Qu'est-ce qu'un micro par rapport... le jour, j'étais dans un hôpital, face à un bilan médical. Je sais, on pourrait être cinglé. Vous pensez d'avoir peur d'un micro
Mais non, mais bien sûr, le micro ne mord personne. Non, mais en plus, Guillaume l'a dit, enfin, ou Josic, je ne sais plus, mais vous êtes devenus des experts de la question. Donc, c'est plus facile quand même de parler au micro d'un truc qu'on connaît bien.
Oui. Expert, disons, personnellement, j'apprends que à petits pas, si vous voulez. J'ai réussi à parvenir à certaines résolutions d'administratives, mais ce ne sont que des morceaux.
Oui, j'ai l'impression
d'avoir des petites nébuleuses, des points, du pointillisme comme les peintres. Et puis, mais j'ai pas une structure globale qui permettrait d'arriver là, puis devant des gens qui ont des problèmes, d'arriver à résoudre une série. Ça, c'est pas vrai.
Mais donc, ça n'arrivera jamais, ça. Ça sera jamais possible, puisqu'ils inventent toujours des nouvelles procédures.
C'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils inventent tout le temps.
C'est ça. Ouais. La créativité n'a pas de limite dans ce domaine.
La créativité, l'obstruction, peut-être aussi. Hein.
Et vous avez écouté le podcast en entier, je suppose,
oui.
Non
oui,
et
oui.
Alors
oui, et puis j'en fais aussi des podcasts. Mais les miens sont plus provoques, plus...
Il y a un studio à Kermaron maintenant, ouais. Oui. Non, il y a un studio de radio pour faire la radio en permanence, non?
En fait, on a une copine qui est venue faire Radio Kermaron l'été dernier. Donc sur tout un mois, elle est venue faire plein d'ateliers avec des différentes personnes qui viennent à la Maison Solidaire. Et avant que ce soit fait sur un plateau en plein air... dans le centre de Douarnenez, donc ça s'appelait Radio Kermaron, c'était vraiment super. Et Guillaume a lancé aussi avec le nouveau coordinateur de la Maison Solidaire, Rémi, de la coopérative d'accès aux droits, Rémi.
Que nous saluons, parce qu'il est déjà passé par la radio aussi.
Et oui, on a fait un plateau radio vendredi dernier, dans le cadre d'un festival à Douarnenez, donc il y a Jessie et Bruno qui s'exprimaient dans cette radio.
Donc ça va continuer. En fait, il n'y aura peut-être pas d'autres épisodes du podcast, mais un peu si quand même, ouais.
Ça continue en tout cas.
D'accord.
C'est pas trop quelle forme, ça va continuer.
Bah, on sait que c'est un super outil, que les personnes puissent s'exprimer, être entendues, et qu'on voit qu'elles ont plein de choses à dire ultra pertinentes.
Et s'informer sur l'accès aux droits au passage.
Exactement.
Il y a aussi un côté utile.
Et créer de la solidarité et de l'entraide dans ces moments-là. En fait, c'est ça aussi le message.
Oui.
On n'est pas des spécialistes vraiment de l'accès aux droits, mais par contre, il y a des endroits où, quand il y a des galères, faut sonner à la porte, il faut venir et en fait on va essayer de débloquer les situations.
Votre coopérative d'accès aux droits est aussi suivie par un chercheur que nous saluons, François Sorin, chercheur en sciences de l'éducation. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il a fait François, puisqu'il n'est pas là pour nous raconter?
Il a fait plein de choses, il était ultra présent, mais il a documenté ce projet de coopérative, il l'a mis aussi en contexte avec toute la recherche qui se faisait sur l'accès aux droits et sur les impacts de la dématérialisation. Et en fait, faudrait des heures pour en parler, mais je pense que le fait d'avoir des entretiens avec les personnes aussi les met en confiance et les réassure dans leur parcours, de se dire, bah, en fait, je suis légitime à m'exprimer sur cette situation-là. Après, ça met en contexte et ça fait du lien avec d'autres dynamiques qui se font ailleurs. Et puis après, il a plein de bonnes idées aussi. Et puis,
Il a beaucoup travaillé sur les questions numériques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues ou un besoin de démystifier ce mot-là. Enfin, quand la COP a été inaugurée, l'élu local, donc maire de Douarn et aussi vice-présidente aux affaires sociales du département, avait un discours qui était celui de bon, on n'arrête pas le progrès. Oui, le numérique, c'est pénible, mais il va falloir s'y adapter, il va falloir s'y faire. Comme si, en fait, c'était les personnes âgées à qui il fallait donner des cours d'informatique. En fait, c'est pas le problème. Il y a des jeunes qui savent très bien se servir de Snapchat et d'Insta. Mais envoyer un mail, c'est un rapport à l'écrit.
Mais
donc, il y a aussi des normes sociale.
Remplir un PDF, n'en parlons pas.
Derrière le numérique, il y a ça. Et la dématérialisation, c'est pas la même chose que le numérique, tout à fait.
Oui, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait faire, ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais. Et François, comment est-ce qu'il a intervenu dans le podcast
Et ben, on l'entend beaucoup dans différents épisodes. Je pense que c'est...
Ce qu'il fait de la radio, c'est pour ça que je posais la question. Il a pas, il a peut-être un peu participé à la structuration du podcast ou...
Oui, puis il a aussi un talent pour les jeux de mots. Donc la recherche s'appelle EXCD, donc c'est EXCD, expérience croisée de la dématérialisation, et du coup l'acronyme dit assez bien ce que c'est que cette expérience de la dématérialisation. Voilà.
Et il y aura une publication sur laquelle on pourra revenir, on fera une autre émission. Voilà.
Très bien.
Et bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu, et puis longue vie à la coopérative d'accès aux droits de Carmarou.
On espère. Hein.
Ah ouais, et puis on pourra réécouter cette émission-là sur notre site internet. À bientôt.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
La chronique sonar, des nouveautés musicales de